Et alors maintenant sur la série.
Un doodle ?
Alors non. Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est.
On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une oui. Contrepétrie avec urne et j'ai.
J'y passe tous les jours.
On continue à parler de Daesh. Alors Jérémy, tu nous parlais de cette vidéo qui a circulé où on voit des membres de Daesh détruire des œuvres d'art. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo ou...
Alors non, moi je ne l'ai pas vu. J'ai entre guillemets refusé de la voir parce que c'est quand même. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens en parler, les médias, les journaux, etc. Mais je pense qu'on est un peu devant la même chose qui s'était produite en Irak il y a déjà quelques années avec la destruction des grands Bouddhas. Et ça fait déjà assez mal au cœur de savoir tout simplement que ça s'est passé. Et bon. En fait, je pense que si on regarde ces vidéos, on se prête aussi à la manipulation qui est en ce moment orchestrée par Daesh, qui se fait beaucoup à travers les médias, les nouveaux moyens de communication, ces vidéos, ces réseaux sociaux. Et je n'ai pas forcément envie d'en être partie intégrante.
Oui, c'est toujours le problème avec ce genre de vidéos, regarder ou ne pas regarder. Surtout qu'il y a toujours le risque d'une certaine complaisance à voir ces images. Bon, celles-ci ne sont pas les pires, évidemment. Daesh se sert effectivement beaucoup des réseaux sociaux, de YouTube, d'archives.org, de Twitter, surtout de Twitter. Personnellement, j'ai choisi de regarder quand c'est regardable et de m'informer envers et contre tout, puisque de toute façon, les vidéos sont diffusées, mises en ligne et accessibles, qu'on choisisse de les regarder ou non. Alors... autant en prendre connaissance.
Ouais, un véritable terrorisme 2.0. Oui, Céline ?
Alors moi, par contre, je n'ai pas regardé les vidéos, mais j'ai regardé les caricatures que les gens en ont fait, notamment celle de Plantu, je crois, qui en fait décrit tout simplement les djihadistes qui sont en train de sortir du musée en question et qui disent « Waouh, je crois que c'est la première fois que je vais au musée, j'ai passé vraiment un très très bon moment, du coup ça m'a fait un peu rire ».
Il y a celle de Zep aussi dans lemonde.fr qui est vraiment très 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 drôle puisque en fait on voit un djihadiste avec un marteau piqueur, enfin un peu avec le trait de crayon de Zep, hein, le djihadiste un peu ado des années 90, tout ça, avec, et en train de avec un marteau piqueur sur une statue qui met de la peinture blanche sur un tableau, etc. Et en fait à la fin, une fois qu'il a tout détruit, il a encore toutes les images qui le hantent dans sa tête.
Oui, les images
de statues. De statues, dénudées, c'est ça. Et il va se plaindre à un de ses collègues djihadistes, enfin voilà, c'est un de ses complices, et du coup, son pote est obligé de l'abattre.
Parce qu'il a dépensé ses impurs.
Parce qu'il a dépensé ses impurs. Donc, ouais, il était assez drôle ce dessin.
Alors, sur un sujet un petit peu plus léger maintenant, sur le musée des Confluences. Alors, je vous parlais de perspectives incertaines. Est-ce que certains d'entre vous y sont allés ? Moi, j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y aller, malheureusement.
Je suis passée en tram devant et à ce moment-là, il y avait une queue énorme.
Ah ouais, c'est monstrueux. Oui, il y a un monde fou, en particulier pendant les vacances, c'était assez impressionnant.
Ah bah c'est plutôt bon signe alors pour le musée. Et
Bon, on a un peu exagéré au niveau du prix, mais... un petit peu. Mais il faut quand même oser. C'est un gros problème à Paris, c'est plus rien se construit parce qu'il y a un fort conservatisme patrimonial et c'est un peu dommage.
Oui, et à Lyon, on a osé construire un nouveau bâtiment à l'architecture particulière.
Alors, on a certes osé construire un bâtiment à l'architecture particulière à Lyon, mais enfin, Lyon arrive assez loin derrière. Enfin, en tout cas, est très en retard par rapport à Marseille, qui a, je trouve, fait plus l'événement avec le MUCEM récemment qu'avec le Musée des Confluences. Alors, c'est peut-être tout à fait subjectif, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu réussir mieux leur coup s'ils n'avaient pas eu autant de retard et s'ils avaient réussi à passer avant le MUCEM. Là, c'est un petit peu dommage pour Lyon, en l'occurrence, parce que, en fait, on se fait une concurrence à coup de musée, donc oui, certes, mais enfin...
Après, il me semble avoir vu dans la presse internationale, dans le Times notamment, il y a eu de la pub et des critiques pour le musée, donc il a quand même eu une...
Et pour les gens qui passent en train, justement, vers Marseille, ils voient le musée et ils en parlent.
Moi, je n'y suis pas allée, mais à chaque fois que les gens m'en parlent, ils me disent « Mais il y a quoi au fond dans ce musée ?» Enfin, peut-être que la communication n'a pas été très bien faite de ce côté-là. Et peut-être qu'on perd un peu aussi... Enfin, il y a quoi dans ce musée ? Oui, c'est la confluence des cultures. Enfin, c'est très, très vague, tout ça.
Oui,
et peut-être qu'à faire un musée un peu plus spécialisé, mais qui montrerait des pièces exceptionnelles ou du moins avec une unité thématique, on attirerait davantage de monde. Mais...
Oui, parce qu'il en a en plus des pièces exceptionnelles, des squelettes de dinosaures, des choses assez extraordinaires. Alors, maintenant, sur la question grecque, moi, j'avais envie de vous demander quelque chose à vous tous, puisque ces derniers temps est intervenue et revenue sur le tapis la question des réparations de l'Allemagne, donc l'argent que les nazis avaient pris de force aux banques grecques, dont on ne sait pas vraiment ce qui est advenu ensuite, en tout cas il n'a pas été remboursé, et le gouvernement de Tsipras a remis cette question sur la table récemment, et je voulais savoir un petit peu votre avis sur cette question.
C'est symbolique, c'est pour voilà, c'est pour peser sur la négociation. Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, par rapport à la dette grecque, ça va rien représenter. Est-ce que c'est forcément une bonne chose de revenir en 45? Enfin, il y a un moment, faut aussi tourner la page.
Oui. Je trouve que c'est un peu l'argument de la mauvaise foi qu'on ressort et qu'on ressortirait probablement si la France était concernée, parce qu'on aimerait beaucoup avoir aussi un argument à leur opposer. Mais la question, c'est aussi est-ce qu'on en est encore resté justement à 45? Est-ce que l'Allemagne est toujours encore tributaire de ce qu'elle a fait, ou de ce que certains de ces... Enfin voilà, de ce que les nazis ont fait? Est-ce que l'Allemagne, c'est toujours les nazis? Ça a aussi dit quelque chose de la manière dont l'Allemagne est actuellement perçue aussi en Grèce. Le climat est de toute manière très mauvais entre les deux pays, mais voilà, bon.
Puis l'Allemagne a fait énormément d'efforts après la réunification, par exemple. Faut pas l'oublier qu'ils ont quand même été séparés pendant une quarantaine d'années.
Oui, budgétairement, la réunification a été extrêmement compliquée pour le pays.
En même temps, en ce moment, les Grecs, ils en bavent aussi pas mal. Oui. Et on va pas non plus leur demander. Enfin, je veux dire, on va pas non plus leur demander d'être bons princes, quoi, et de passer dessus comme ça. Je pense que c'est voilà, c'est aussi dû. Enfin, tous les coups sont bons, sont permis pour. Enfin, voilà, pour faire suer les gens qui les. Enfin, les autorités européennes.
Les gens qui sont responsables, selon eux, de leur
misère. De leur dette et de leur misère. Tout ça.
Voilà, sans transition municipale, donc, le Front National a conquis plusieurs mairies. À Hénin-Beaumont, le changement de style est déjà visible.
Dédicacé à tous ceux qui n'en peuvent plus à Hénin. Ce petit patelin ou notre programme va être appliqué.
Pendant 6 ans.
Ce petit patelin paumé, ou règne chômage et insécurité.
Alors oui, Céline, j'ai cru comprendre que tu avais une petite information insolite sur le Front National que tu voudrais nous faire partager.
Oui, alors, dans mon département qui est donc la Haute-Loire, le FN a investi 6 candidats. Donc jusqu'ici, rien de très bizarre, sauf que ces 6 candidats sont issus de la même famille. Alors oui, c'est un peu étrange. Le FN a justifié ça en disant qu'ils étaient vraiment très compétents tous. Non, ils ne manquent pas du tout de candidats en Haute-Loire. Non, c'est pas du tout bizarre. Enfin voilà, c'était l'info insolite. Alors je tiens à préciser que bien sûr, ils ne sont pas tous dans le même canton. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça a fait, l'objet de discussions dans certains médias, des radios qui sont intéressées à l'Haute-Loire pour une fois, pour une info un petit peu étrange.
Oui, le népotisme, c'est de famille au FN. Oui.
J'imagine que Jean-Marie Le Pen justifierait ça en disant qu'ils sont de bonne race, qu'il n'y a pas de raison. Il l'avait déjà dit à propos de sa propre famille, donc pourquoi pas?
Oui, donc on a un peu le sentiment d'un choix entre la peste et le choléra parmi tous ces candidats FN. C'est un petit peu le même choix qu'on a en Syrie, toute proportion gardée, bien sûr, puisque à quel prix doit-on lutter contre le terrorisme? On voit que les Occidentaux recommencent à fréquenter Bachar el-Assad après lui avoir longtemps fermé leurs portes, et les portes de l'ambassade, entre autres. Quel prix doit-on lutter contre? Si jamais on peut apporter une réponse à cette question qui reste...
Bah, moi, je suis fasciné par la manière très Disneyland dont on semble mener la diplomatie européenne en ce moment. On a quelques grandes figures du mal. Alors, il y a Poutine, c'était Bachar el-Assad il y a encore 6 mois. Et puis, petit à petit, on redécouvre peut-être que les choses sont un peu plus complexes. Bon, c'est mal parti pour Poutine de ce point de vue-là, mais... Et donc, évidemment, ce sont des rapports de force compliqués. Et il ne s'agit de rien d'autre que des rapports de force. Et après, pour la question du choix qui va se poser... On tranchera sans doute jamais, puisqu'on retombe toujours sur le même problème, qui est celui d'une diplomatie européenne, de son existence, de ses attributions, et on n'en sortira pas. On restera à la remorque des États-Unis à suivre leur bon vouloir, de ce point de vue-là.
Et puis c'est un petit peu inquiétant, non, je sais pas, de voir des parlementaires qui peuvent, comme ça, partir dans un pays qui est sur la liste noire du ministère des Affaires étrangères, rencontrer un chef d'État...
Alors, je dois dire qu'ils se sont prêtés au jeu aussi de Bachar el-Assad, qui a organisé leur trajet, qui leur a fait rencontrer les bonnes personnes. Ils se sont tout simplement prêtés à la propagande du régime syrien, ce qui est absolument abominable. Enfin bon, ils mis en scène et ils en sont revenus très fiers d'eux, à étaler leur tribune dans la presse, je pense notamment à Jacques Millard, qui a d'ailleurs dit qu'il a rencontré des personnes qui sont mortes il y a 2 ans, donc ce qui nous laisse quand même... Qu'est-ce qui laisse planer des doutes sur la véracité de ce qu'il dit ou de ce qu'il a fait là-bas. En tout cas, c'est très inquiétant. Une autre info, d'ailleurs, au Moyen-Orient, en ce moment, on a les élections en Israël. Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou va être réélu ? Pour l'instant, la campagne n'est pas vraiment très, très animée, surtout au niveau des questions de sécurité, puisque la gauche et globalement, oui, le camp de la gauche et le camp de la paix essaient vraiment d'éviter ces questions parce qu'ils savent qu'ils vont... se mettre à dos une partie de la population. La droite, et en particulier l'extrême droite radicale, est très très bien placée pour ces élections. Donc là encore, du côté d'Israël, on doit s'attendre à une sorte de fermeté en plus, ce qui laisse présager de jours assez sombres encore.
Oui, encore pour le Moyen-Orient. Alors, merci à tous autour de la table pour avoir participé et pour lancer cette nouvelle émission. Merci à Nicolas qui a assuré la technique vaillamment. Nous espérons que, bien évidemment, ce premier numéro vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le 2e numéro du journal radiophonique amplifié.